Dis-moi, t'aimerais faire quoi quand tu seras plus grande ? Moi, quand je serai grande, je serai... Et toi ? Quand je serai grande, un podcast RLP par Hélène Grillon. Bonjour les amis, c'est Hélène Grillon. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une passionnante figure de la danse classique. De Paris à New York, notre héroïne du jour a captivé les spectateurs par sa virtuosité et sa présence magnétique sur scène. Elle a cumulé un bon nombre de premières. Première danseuse étoile amérindienne, prima ballerina du New York City Ballet ou encore première américaine au ballet de l'Opéra de Paris. Originaire de la nation Osage et refusant de renier son héritage amérindien, elle a véritablement fait entrer le monde du ballet américain dans une nouvelle ère. Son parcours remarquable a ainsi brisé les barrières culturelles et inspiré des générations de danseurs à travers le globe. Elle a non seulement brillé sur scène, mais a également ouvert la voie à plus de diversité dans le monde de la danse classique. Même après avoir pris sa retraite des projecteurs, elle a continué à partager son amour de la danse et du mouvement en tant que mentor et enseignante. C'est en compagnie de cette femme vibrante, à la grâce sans égale et à l'énergie aérienne, que nous allons passer les prochaines minutes. Sans plus attendre, partons à la rencontre de la première prima ballerina assoluta américaine, j'ai nommé Maria Tolshieff. La danse l'a amenée sur la scène des plus grands opéras du monde, là où elle devenait pleinement elle. Sur les planches, elle donnait l'impression de s'envoler. Le critique de danse John Martin ne tarissait pas d'éloges en 1949 pour décrire la délicatesse et le dynamisme qu'elle dégageait. Je cite « Elle nous rappelle constamment que l'air est son véritable milieu ». Presque aucun rôle de ballet n'avait de secret pour elle. Lorsque sa notoriété a pris son envol, plusieurs personnes du milieu lui ont conseillé de rendre son nom un peu plus russe. Mais Maria, avec grande détermination, a refusé. Car au fond d'elle, elle n'a jamais renié ses origines. Elle était fière de son héritage, et ce, depuis toute petite. Maria s'appelle en réalité Elizabeth Marie Tolshieff. Tolshieff en deux mots, mais tout le monde autour d'elle la surnomme Betty Mary. Sa mère Ruth Porter, d'origine irlando-écossaise, et son père Alexander Joseph Tolshieff, de la tribu Osage, se sont installés à Fairfax, dans l'Oklahoma, sur les terres de la nation Osage. Notre héroïne voit le jour le 24 janvier 1925. Les membres de la nation Osage s'enrichissent alors fortement grâce au pétrole. Il y a quelques années, l'arrière-grand-père de Maria a aidé la tribu à obtenir des droits miniers sur ses terres. Mais malgré le confort financier que cette fortune offre, ces droits présentent un énorme risque pour les habitants. Vous l'aurez peut-être vu dans le film Killers of the Flower Moon, qui est inspiré du coup d'une histoire vraie, mais certains colons blancs menacent, voire assassinent des membres de la tribu pour s'approprier les réserves pétrolières et par la même occasion, tout le butin qui vient avec. Malheureusement, la famille Tolshieff n'a pas été épargnée. Pearl, une cousine de Maria, a perdu toute sa famille dans un incendie et a été poursuivie par des hommes avides de richesses qui voulaient lui voler tout son héritage. Malgré toutes les épreuves qu'elle et sa famille ont traversées, Maria grandit avec l'impression que son père possède la ville, comme elle le dit dans sa biographie de 1997. Frustrée de ne pas avoir pu devenir artiste elle-même, sa mère Ruth initie ses filles à la danse. Ruth a bien l'intention qu'elle devienne un jour célèbre, et pour cela, il faut commencer très tôt. Maria a alors 3 ans lorsqu'elle et sa petite sœur Marjorie fréquentent une école privée. Ici, elles reçoivent des leçons et Maria commence à apprendre le ballet. Elle se rend compte alors qu'elle adore la danse et surtout qu'elle est très douée, à la danse comme à l'école, même si parfois elle s'ennuie un peu en cours. Quand Maria a 8 ans, sa famille emménage à Los Angeles avec l'idée de faire participer les enfants à des comédies musicales hollywoodiennes. Maria s'essaie alors à toutes les disciplines artistiques qu'elle peut, du ballet au piano, en passant par les claquettes et les danses espagnoles. Pendant un court passage à Beverly Hills, elle endure les moqueries de ses camarades de classe qui prétendent ne pas comprendre son nom de famille. Elle confiera plus tard « Ils ont fini par s'habituer à moi, mais cette expérience a été douloureuse. Finalement, j'ai modifié l'orthographe de mon nom de famille pour qu'il s'écrive en un seul mot. » Une nouvelle vie commence alors en Californie. Il se trouve que notre héroïne fait l'une des premières rencontres décisives de sa carrière de ballerine. C'est en étudiant auprès de la légendaire danseuse et chorégraphe Bronislava Nijinska que Maria réalise qu'elle souhaite dévouer sa vie au ballet. À 15 ans, elle participe à des ballets mis en scène par sa professeure. Grâce à Nijinska, Maria développe et perfectionne sa technique et la précision des mouvements qui la rendront célèbre plus tard. Après les cours à Beverly Hills, Maria aimerait beaucoup poursuivre ses études, mais son père s'y oppose. Pour lui, c'est clair, après avoir payé pour les leçons de danse de Maria, il serait temps que la jeune fille trouve un travail. Elle décroche alors un rôle dans la comédie musicale Lily Mars Vedette avec Judy Garland, mais l'expérience est juste bonne à prendre. Alors à 17 ans, elle prend la décision de quitter la Californie pour partir vivre à New York. Nous sommes en 1942 et la carrière de Maria est sur le point de décoller à la sortie du lycée. Les refus qu'elle a encaissés n'ont fait que raviver sa détermination. Heureusement, car elle se fait embaucher cette année-là au sein du célèbre ballet russe de Monte Carlo, dirigé par Serge Danham, pour une tournée nord-américaine. Grâce à son ancienne professeure, Maria obtient rapidement le rôle principal dans un ballet en tant qu'élève de la danseuse étoile Nathalie Krasovska. Cette promotion accordée à une danseuse américaine que les danseuses russes jugent moins qualifiée, sans doute aussi à cause de ses origines, suscite l'hostilité de ses camarades. Au cours de la tournée, la compagnie présente une large sélection de nouveaux ballets et permet aux États-Unis de se familiariser avec cet art qu'ils connaissent si peu. À cette époque, le ballet est largement perçu comme une tradition élitiste, principalement européenne et complètement dominée par les danseurs russes. Aucune américaine n'a encore été honorée du titre de prima ballerina assoluta, la plus haute distinction. D'ailleurs, les danseuses américaines sont encouragées à transformer leur nom pour qu'il sonne un peu plus russe. On pousse Maria à devenir Tolchiva, ce qu'elle refuse catégoriquement. En 2 mois, Maria apparaît dans 7 ballets. En 1943, elle remplace même au pied levé Nathalie Krasovska, qui a quitté la troupe. La critique salue alors son incroyable performance dans le rôle principal de Chopin Concerto.
It's pure magic when it's right. It's just magical. It's so wonderful. It's so, for me, it is a wonderful experience to work with dancers who respond, who understand, who see the difference.
La fille de Maria dit avec douceur de sa mère qu'elle avait une loyauté et une détermination sans faille. Cette détermination attire plus tard l'attention de l'un des plus célèbres chorégraphes au monde, Georges Balanchine. Il rejoint la troupe en 1944 et il est rapidement subjugué par le travail de la danseuse. Il faut dire que Maria est elle aussi admirative. Un an plus tard, Georges la demande en mariage. Maria a alors 20 ans et lui 41. Leur collaboration professionnelle devient alors celle d'une vie durant quelques années. Maria écrit plus tard « J'étais sa femme, mais aussi sa ballerine. C'était mon mari, mais aussi mon chorégraphe. C'était un poète et j'étais sa muse. » En 1947, elle le suit à Paris et devient la première américaine à intégrer le ballet de l'Opéra de Paris. Où qu'elle se produise, Maria captive les regards et Balanchine lui confie des rôles de plus en plus remarquables.
I was such an apt pupil. I was so anxious to dance the way he wanted us to dance. I wanted to be exactly like I would see the result of how he would have the other dancers. He would say the same thing to them, but how wonderful they looked.
Mais parfois la fascination franchit des limites excessives. Le public et les critiques sont subjugués par ses performances, ce qui ne l'empêche pas de subir le racisme de ses collègues, mais aussi de la presse. Plusieurs journaux de l'époque titrent, entre gros guillemets, « Peau rouge danse à l'opéra pour le roi de Suède » ou encore « La fille du grand chef indien danse à l'opéra ». Maria écrira plus tard « Je voulais avant tout être appréciée comme danseuse étoile, jamais comme danseuse amérindienne. » Elle poursuit son incroyable carrière aux États-Unis lorsque le New York City Ballet ouvre ses portes en octobre 1948. Ici, elle interprète un an plus tard l'un des rôles les plus saisissants, le rôle titre du célèbre Oiseau de Feu. Une mise en scène de Balanchine avec la puissante musique d'Igor Stravinsky montée dans un décor signé par le peintre Marc Chagall. Un ballet débordant de dynamisme. Maria est éblouissante dans ce rôle et tous les spectateurs s'extasient de la performance à laquelle ils viennent d'assister. Maria Tolchieff mérite le titre de prima ballerina assoluta, écrivait un critique dans The Guardian. Par la suite, sa carrière devient phénoménale. Vibrante et puissante, son nom est connu de toutes et tous. De la fée dragée dans la reprise de Casse-Noisette par Balanchine, au rôle d'Odette Odile dans sa version du Lac des Cygnes, Maria a conquis de nombreux rôles. Au milieu des années 1950, on dit qu'elle gagnait plus d'argent que toute autre danseuse de son époque. Maria continue de collaborer avec le ballet de New York jusqu'en 1960, dans des ballets classiques et dans des rôles créés sur mesure pour elle par Balanchine. En 1966, à l'âge de 41 ans, elle joue dans le ballet Cendrillon de Peter Vandy, l'une de ses dernières représentations. C'est après des années au sommet du monde de la danse que Maria prend sa retraite et choisit de se dévouer à l'enseignement. Avec sa sœur Marjorie, elle fonde en 1981 le Chicago City Ballet, dont elle est co-directrice artistique jusqu'en 1987. Bien que la compagnie fasse faillite, elle contribue à populariser la danse à Chicago. Comme l'explique sa fille Elise, sa mère était très attachée à ce que l'héritage du ballet se perpétue. En 1996, Maria reçoit les honneurs du Kennedy Center et elle est nommée au National Women's Hall of Fame. Elle décède malheureusement quelques années plus tard, en avril 2013, des suites de complications après une fracture de la hanche. Cette femme qui se souciait si peu de la célébrité a pourtant laissé un héritage immense derrière elle. Plus de 10 ans après sa mort, cette légende du ballet a été honorée d'une nouvelle manière, car son portrait a été immortalisé au verso d'une pièce de 25 cents américains. Un hommage rendu à l'une des amérindiennes les plus connues de l'époque moderne et du monde de la danse. En somme, cette jeune fille du fin fond de l'Oklahoma, à la passion débordante pour le ballet, a trouvé ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande. Voilà, rien que ça. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir écouté ces quelques minutes passées en compagnie de la rayonnante Maria Tolchif. C'est le moment de conclure cet épisode, mais pas de tristesse car je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec une épatante ingénieure amateur et sauveuse de phares. Vous allez comprendre pourquoi. Dès son enfance, elle cultive un esprit curieux et avide de connaissances. Plus tard, lorsqu'elle s'installera avec son mari sur les falaises de Rocky Point à Long Island, elle refusera de laisser l'érosion détruire leur maison de rêve. Elle inventera alors un système ingénieux qui, de fil en aiguille, motivera le projet de sa vie, s'attaquer au défi monumental de sauver le phare de Montauk. Avec 0 budget, mais une volonté inflexible, elle mobilisera tous les efforts pour préserver ce symbole de la côte. Rendez-vous donc prochainement pour une belle histoire de vie en compagnie d'une autre femme très déterminée. En attendant de nous retrouver, restez curieuses et curieux. À bientôt sur RLP.